CO2 Mon Amour avec le WWF. Il est urgent d'agir pour faire face au dérèglement climatique. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur www.fr.
Je voudrais remercier monsieur le député maire de Joie-la-Ville qu'il a fait installer une usine de traitement de déchets nucléaires au village. Que grâce à lui, il y a du travail pour tout le monde.
CO2, mon amour.
Ma chanson vient. Elle a changé de peau 3 fois. Monsieur Tron. Surtout la peau bleue avec les yeux rouges.
Denis Chessou.
Comme elle dit maman, c'est dur de l'habiller.
Voilà, donc Métayer sur France Inter. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec à la technique Clément Vuillet et Elodie Royer. Et puis à France Bleu Pays de Savoie, ce sera Laurent Barberoux, assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et avant de parler du solaire, il y aura une actualité. Et puis bien sûr, allez, ces quelques mots. L'actualité climatique, vous savez, en ce moment, c'est un peu comme quand on marche dans les rues désertes d'une cité balnéaire, un jour de tempête. On ne sait jamais si au coin d'un carrefour, on va se prendre des embruns frais dans les narines, une grosse poignée de sable, une chaise longue, un dauphin rejeté par la mer, un député en rupture de parti, une tôle rouillée arrachée d'un balcon ou un ancien Premier ministre cherchant un point de chute à Évry. Alors Bonn, puisqu'on parle du climat, en pleine valse bavaroise torride, donc à Bonn, sur les bords du Rhin, Donald Papa Trump, pas encore en culotte de peau et en chapeau à plumes, enfin il pourrait, va serrer très fort Angela sur son cœur en lui proposant une coupette de schiste bitumineux, un pipeline XL, la possibilité pour les mines à ciel ouvert de polluer les rivières. Tout ça pour l'ouverture de la COP 23. Alors la COP 23, de quoi s'agit-il ? En fait, de clarifier les règles de mise en œuvre de la COP 21. C'est vraiment le début des travaux pratiques. La COP quoi ? Mais je n'ai jamais signé ça. Ce n'est pas ma signature, mais celle d'Obama. Moi, je n'y crois pas et cela suffit. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, une croyance, un fait scientifique, une opinion, de l'intox ou des arguments solides, vous m'assaisonnez tout ça d'un peu de religion, le tout dans le checker des réseaux sociaux et hop, tout est nivelé, tout se vaut poil au dos et on se tiendra de plus en plus chaud. Alors Trump, deuxième pays en émission de gaz à effet de serre, sortira pas de l'accord de Paris, allez savoir. Paris, tenez, revenons-y, c'était dimanche dernier, 22h, il y avait du monde au Louvre. Ah ouais, il y avait une méga teuf improvisée. Philippe Auguste n'y fut même pas convié, alors que 1190, le roi fit construire une forteresse pour protéger les quartiers de la rive droite. Le lieu dit a été appelé le Louvre. Alors une des explications, je dis bien une des, c'est parce que il y aurait eu quand même pas mal de loups dans les bois voisins, Louvre, Loupara, Luparius, alors est-ce un bon présage ? La nature, le sauvage, repoussé jusqu'à présent, piétiné, ennemi de la modernité conquérante, raboteuse et asphalteuse du vivant, la nature sera-t-elle mieux considérée durant ce quinquennat ? Je rappelle à ceux qui prennent l'émission En Marche, c'est amusant, que depuis 25 ans, avec Jean-Marie Pelt, nous répétons que la nature, c'est une grande mutuelle, c'est notre assurance-vie. Eh oui, et Jean-Louis Etienne le dit bien aussi, la nature, c'est tout ce qui échappe à la volonté de l'homme et qui lui donne la vie. Alors notre nouveau président, au sourire tout neuf, risque peut-être de se casser les dents de lait sur de redoutables pavés de conflits sociaux qui l'attendent avant même d'envisager de pouvoir parler de biodiversité et de réchauffement climatique. À moins que. Certes, il est difficile de dire que l'environnement a quand même structuré son programme, ça, on l'a bien compris. Mais notre jeune président volontaire changera-t-il de logiciel avec une place à l'environnement bien plus centrale et non à la remorque d'une économie qui scie à la tronçonneuse les branches qui la supportent ? Après tout, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et que font les hommes ? La tête dans les épaules, ils votent parfois sans illusion, font la tortue à défaut de faire l'autruche. Mais, ils s'organisent à la base, ils inventent un monde qui vient au monde nouveau, solidaire, horizontal. Et on reste ébahi, car la tortue va vite, en matière de solaire comme ailleurs. Et Serge Auroux, qui entre autres a créé le Festival du Vent en Corse, rappelait une très jolie chose. Il disait être exigeant avec notre nouveau président, 100 fois oui, mais à condition que nous le soyons autant avec nous-mêmes. Alors on va avoir notre petite séquence actualité, donc avant notre solaire, avec d'abord un premier message, 01 56 40 40 35.
Bonjour Denis, ici Manu de Payet en Gironde. Je viens vous parler d'Artolien. Artolien, c'est une utopie réelle, bien réelle. Artolien, c'est un festival d'alternatives citoyennes qu'on a lancé il y a 3 ans par des collectifs qui regroupent des élus locaux, des associatifs, des citoyens, des gens qui se parlent dans ce climat de défiance totale. Et le but, c'est de tester réellement des alternatives de développement par des conférences, par des ateliers, et puis de rester dans une logique festive avec des concerts. Tout ça, ça aura lieu le 12, 13, 14 mai prochain autour de Payet, Lestiac, Langoiran, Cadillac, en bord de Garonne, quelques villages qui vont accueillir ce festival. Le programme, il est très dense. Vous pouvez le retrouver sur la page Facebook Artolien, A-R-T-O-L-I-E-N-S. À bientôt tout le monde sur notre bord de Garonne pour partager avec nous notre vraie utopie de demain, notre vraie alternative de développement. Ciao, merci Denis pour ton relais.
Ben voilà, donc ça bouge, on vous le disait effectivement à la base, donc c'est là-bas, c'est nous, hein, c'est les uns et les autres. Artolien, donc sur les bords de la Garonne. Notre actualité, bonjour Frédéric Danhé. Cher Frédéric Danhé, où êtes-vous? Voilà, est-ce que vous êtes...
Je ne suis pas en studio, mais je ne suis pas loin.
Ben c'est bien compris, ça y est, on vous a récupéré. On va parler avec vous, Frédéric, d'un petit décryptage, que c'est intéressant. On va parler de la compensation. Alors, la compensation, c'est une loi qui date de 76. Le principe a été coulé dans le bronze, dans la loi de la biodiversité. Et là, donc, on a une véritable actualité. Qu'est-ce que la compensation, que l'on comprenne bien, lorsque, par exemple, j'ai envie d'installer, allez quoi, au hasard, un aéroport, hein, dites-nous.
Alors justement, c'est le sénateur Ronan Dantec de Loire-Atlantique qui s'est penché là-dessus dans un rapport qui a été publié jeudi. Normalement, quand vous avez un projet d'aéroport qui ne sert à rien, en principe, vous essayez d'éviter de le faire, par exemple, en prolongeant la piste de l'aéroport qui existe. Or, manifestement, ça n'a pas été fait. Quand bien même le projet est accepté, vous essayez de réduire les impacts, c'est-à-dire que vous ne remplacez pas, vous ne prétendez pas remplacer le bocage que vous allez détruire en plantant 3 tilleuls sur le parking. Voilà, ça c'est réduire, mais réduire vraiment, et quand vous n'avez pas réussi ni à éviter ni à réduire, vous faites votre projet, mais vous essayez de le compenser, c'est-à-dire que ce que vous avez abîmé, non seulement en termes de surface, de nature, mais surtout en termes, c'est plus subtil, mais c'est plus scientifiquement logique, en termes de fonction de la nature qui a été altérée. Par exemple, vous avez une zone humide qui a été détruite, et du coup, vous avez un écoulement de l'eau qui se fait plus mal. Ça, faut le compenser par un autre biotope qui va rétablir l'équilibre à proximité. Voilà, c'est ça compenser.
Parce que jusqu'à présent, on va dire que, mettons, on fichait en l'air, on va dire 10 hectares, et on compensait avec 10 hectares. Maintenant, c'est plus subtil. On s'intéresse vraiment à la fonction écologique du milieu.
C'est ça, voilà. Et c'est ce que met bien en évidence ce rapport, si vous voulez, c'est auparavant, voilà, vous détruisiez 10 hectares, en gros, parce que vous êtes un gentil aménageur et vous voulez que le préfet vous foute la paix, eh bien, on refaisait un milieu naturel sur 100 hectares ou 150 hectares s'il y avait de l'argent. En fait, ça sert pas à grand-chose, ça sert pas toujours à grand-chose, et puis surtout, ça exerce la double peine sur le monde agricole, hein. Ça a été montré par ce rapport, c'est-à-dire que les agriculteurs sont les premiers impactés par un aménagement, hein, quand on fait passer une autoroute au milieu d'un champ, c'est au milieu d'un champ. Et en plus, on vient dire à l'agriculteur ensuite, mais non, on va compenser, mais chez vous. Oui, c'est-à-dire que ces 100 hectares, on va les prendre chez vous. Et ça, les agriculteurs n'en veulent plus. Eux, ils veulent que le principe éviter, réduire, compenser soit vraiment pris au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on commence par éviter, puis à réduire de façon à ce qu'on compense le moins possible et donc que l'on prenne le moins de terre possible. Ils veulent être consultés très en amont des projets et pas être mis devant le fait accompli. Et puis, ils veulent qu'on ait... comment dirais-je, qu'on passe, si vous voulez, d'une compensation plus qualitative que quantitative, c'est-à-dire qu'on essaye de compenser des fonctions qui ont été perdues, hein, je reprends l'exemple de la zone humide, plutôt que systématiquement des surfaces.
Voilà, donc ça a été donc le rapport mené par Ronan Dantec donc au Sénat, un homme qui s'intéresse évidemment à ces sujets, mais c'est une évolution, hein. On se dit, moi le quotidien, je suis urbain, etc. Non, c'est une véritable aussi évolution, et jusqu'à présent, disons-le, c'est-à-dire que éviter et réduire, ils se sont rendus compte que ça n'existait pas, hein, pratiquement pas, et on compensait en fait en achetant des terres, et là c'est en train donc d'évoluer. On poursuit l'actualité, tenez, c'est l'ouverture au domaine de Longchamp au bois de Boulogne ce week-end de l'association Good Planet, et vous connaissez Yann Arthus Bertrand.
Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui font, les gens qui s'engagent. Aujourd'hui, si on regarde le monde avec les yeux ouverts, véritablement, le changement climatique, il va arriver, il n'y a pas de problème. L'épuisement des ressources, ça va arriver. On est en train de vider les mers. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Et ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui s'engagent, qui font, qui aiment et qui partagent. Et je voudrais que cet endroit soit vraiment le lieu des ONG, le lieu des gens qui aiment, le lieu des gens qui veulent changer le monde. C'est pas ridicule de dire que chacun, à sa façon, on peut changer le monde. Ce lieu sera là pour ça. J'aimerais que les gens qui sortent d'ici aiment un peu plus les gens en sortant et un peu plus confiance de ce qu'ils peuvent faire dans leur vie.
Alors on va se dire qu'on est à la fois sur une fin de civilisation qui est complètement démente, mais on est en train de voir l'émergence d'une autre civilisation. On sait que ça va prendre à peu près une génération et qui est en train d'émerger. C'est sur celle-là qu'il faut investir.
Moi, je vais te dire, il ne faut pas demander aux autres de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est pas aux enfants ni aux générations futures de changer le monde, c'est à toi tout de suite et à moi maintenant. Et c'est ça ce dont on va parler ici. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour faire un monde meilleur ?
Avec l'exposition d'ailleurs Human, où vous verrez donc 600 portraits de différentes personnes du monde, qui est tout à fait intéressante. Bon, à vous de voir, à vous de vous faire une idée, il y a plein de choses sur la biodiversité, etc. Donc voilà, et puis il y a un truc qui est très intéressant, c'est que vous n'avez pas un prix d'entrée, mais vous avez un prix de sortie. Ça se fait à discrétion, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez ressenti, parsenti, bah vous donnez pas, enfin voilà, donc c'est aussi un pari. C'est donc Good Planet, et ça se trouve donc au domaine de Longchamp. Frédéric, on continue l'actualité aussi avec les chers nanoparticules. Ne prenez pas votre loupe, vous ne les verrez pas, mais donc là, on a eu un arrêté du 5 mai qui est paru donc cette semaine le 11 sur les nanoparticules dans les produits alimentaires.
Oui, on en a beaucoup parlé dans cette émission, donc Ségolène Royal nous a sans doute entendu, car c'est une auditrice fidèle de mon amour.
Non, mais elle avait aussi une série de décrets et d'arrêtés à sortir avant de partir.
Absolument, avant de partir, et donc du coup elle en a publié un pour obliger les fabricants de produits alimentaires à imposer la marque nano, c'est-à-dire après le E171 ou après le dioxyde de titane si vous voulez, entre autres produits nano particuliers, vous aurez entre crochets la mention nano, N-A-N-O, pour l'information du consommateur. C'est quand même pas mal.
Donc là, faut prendre vraiment la loupe.
Faut prendre vraiment la loupe. C'est pas écrit en typo nano, mais faut quand même regarder, c'est écrit tout petit. Alors c'est juste l'application d'un règlement européen, faut bien le dire, de 2011, que Ségolène Royal avait peut-être oublié ou tardé à traduire en droit français.
En tout cas, si c'est pas elle directement, ça a été des gens qui y ont activé autour.
Oui, c'est sûr, ça. Bien sûr.
Mais alors c'est pas dans les gels douches, enfin, je veux dire qu'on le sait pas, c'est uniquement pour l'alimentation.
C'est uniquement sur les denrées alimentaires, Denis, c'est pas pour les gels douches ni les crèmes solaires, et encore moins pour les panneaux solaires.
Et ben voilà, puisqu'on parle de solaire, vous allez rester un petit peu avec nous tranquillement, et puis tenez, un autre message qui nous emmène, dans le ciel, des oiseaux qui sont près du soleil, 01 56 40 40 35, vive les vautours.
Bonjour, Denis Fiessou, Christian Tessier, l'association Vautour en Baronnie, dans le sud du département de la Drôme. On va vivre un moment très fort dimanche prochain, là, le 14 mai. On va réintroduire deux jeunes gypèdes barbus, vautours particuliers qui mangent des os. Et ces oiseaux vont être réintroduits par une méthode un petit peu originale, qui consiste à les placer sur une vire rocheuse à l'âge de 90 jours, donc à cet âge-là, ils ne sauront pas encore voler. On va les nourrir la nuit pour qu'il n'y ait plus de contact entre les hommes et les oiseaux. Et environ dans un mois, ils devraient effectuer leur premier vol. Et Enedis a fait un travail remarquable. Ils ont aménagé cette ligne, c'est-à-dire qu'une bonne partie a été enterrée. Et ce qui ne pouvait pas être enterré à cause du relief a été gardé en aérien, mais en utilisant du câble tressé gainé, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun risque d'électrocution pour les oiseaux. Et le risque de collision est quasiment nul. Au revoir.
Voilà, donc là encore, des gens, des associations qui font sur le terrain. Alors, on ne sait pas si le vautour a un compteur Linky dans sa falaise et dans son nid. Mais bon, ce sera évidemment... Non, ce que c'est toujours chaud. Ça fait chiffon rouge, je le sais. Voilà, je le dis. Et on va s'intéresser au solaire. C'est le dossier du jour. Juste après qui ? Oh, Lande.
CO2, mon amour, avec Denis Chessou, sur France Inter.
Down with none to be a hero. in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, my money's running low, dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on.
Another Day of Sun, bah oui, ça colle bien quand même sur France Inter. Merci, Emmanuel Pérez, pour cet à-propos donc musical et donc solaire, mon amour, avec André Joffre. Bonjour André Joffre.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes vraiment, vous, un homme du solaire, militant d'énergie solaire depuis 35 ans dans vos Pyrénées orientales, où d'ailleurs, je crois qu'à la fin du siècle dernier, il y avait un prêtre qui s'appelait le Padre Himalaya. Pourquoi? Parce qu'il était très très grand et qui était un des premiers à fabriquer quoi?
Tout à fait, il a construit le premier four solaire industriel et il cherchait à faire du diamant artificiel, de la dynamite, et il travaillait avec les services secrets français. Ça a été le premier four qui a été reconstruit l'été dernier, et donc on peut visiter aujourd'hui, lorsqu'on vient dans les Pyrénées-Orientales, c'est à Sorède, et on peut visiter et faire des expérimentations, faire fonctionner le four.
Alors vous êtes à la tête d'un bureau d'études indépendant qui s'appelle Texsol, et puis aussi le président du pôle de compétitivité Derby sur l'énergie solaire. J'ai presque envie de dire aussi, d'abord, on parlera d'actualité, mais l'énergie solaire, combien de division en France, parce que quand on regarde l'énergie solaire dans la part de la production électrique, alors on a le nucléaire, bah évidemment, qui est dominant, chiffre 2016, 72%, l'hydraulique 12%, le gaz 6,6%, l'éolien pas loin de 4% et le solaire 1,6%. Voilà. Et en même temps, bah, ça n'arrête pas de bouger. Alors,
Oui, c'est ça. En fait, en France, on a aujourd'hui des volumes qui sont assez convenables, notamment cette année en 2017. 2016 a été une année quand même un petit peu modeste en matière de volume de panneaux solaires installés, mais au niveau mondial, en fait, les choses cheminent de façon extraordinaire. C'est-à-dire que la progression, elle est très très forte. Des pays comme les États-Unis, où l'électricité est vendue plus cher sur le réseau, effectivement, se développe très très vite, la Chine également. Et donc, on s'aperçoit que le solaire est devenu, dans beaucoup de pays, une énergie rentable. C'est le cas de l'Afrique également, sur lequel, enfin, une perspective s'ouvre pour pouvoir donner de la lumière à tout ce pays qui était connecté du réseau.
Alors Christian Schaeffer, je vais me tourner vers vous parce que vous êtes d'ailleurs dans un pays ensoleillé. Hein. Vous êtes chez nos amis de France Bleu Pays de Savoie, à Chambéry. Vous saluerez les 400 culs, ça c'est pour moi. Mais ça, si vous ne le connaissez pas, ce sont les éléphants qui sont là-bas, qui ont eu toute une histoire. Je vous la ferai une autre fois. Donc à Chambéry, les gens connaissent. Vous êtes le professeur à l'université de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Vous êtes directeur de la plateforme formation et évaluation à l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Donc vous faites évidemment beaucoup de recherche dans ce domaine. Alors justement, pourquoi effectivement ça se développe plus facilement? Parce que c'est pas centralisé dans les autres pays? Comment ça se passe?
Oui, bonjour Denis, bonjour André. Eh bien l'INES effectivement a démarré il y a une dizaine d'années. Hein, saluer les visionnaires qui ont mis en place cet institut à cette époque, oui. Hein, aux alentours des années 2006. Et l'idée magistrale qui a été mise en place, c'est de travailler à la fois sur la partie matériaux d'élaboration de la filière silicium avec la culture qui existait sur Grenoble du côté du CEA Leti en particulier, et pour aller jusqu'aux usages. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de la chaîne de la valeur est présente à INES, autour de 400-450 personnes, avec un pôle universitaire, l'Université de Savoie, qui est aussi présente dans ce pôle et dans cet environnement. Et puis une activité d'accompagnement que j'ai le plaisir de diriger aujourd'hui, surtout l'accompagnement des technologies qui sont mises en place au sein de ces instituts, tant pour les professionnels que pour les collectivités qui se lancent dans les grands programmes TEPOS. Et donc, on va effectivement.
Ce sont les territoires à énergie positive. Moi, je reviens là-dessus quand même tout à l'heure. Parce que la question initiale aussi, c'était sur pourquoi effectivement ça se développe différemment, on va dire, à l'étranger.
Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le cadre réglementaire de l'énergie joue pour beaucoup sur le développement de la stratégie des différentes filières énergétiques et du solaire en particulier. Les politiques énergétiques françaises et européennes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, on a des territoires dans le monde où, comme André vient de l'évoquer, c'est pas un problème de réglementation ou de coût de l'énergie, c'est un problème de manque d'énergie, et en particulier sur l'Afrique aujourd'hui. Avec cette énergie solaire, on va pouvoir servir nos partenaires en leur offrant une énergie qu'ils n'ont jamais eue. Et donc, on est face à des bouleversements très très importants, puisque ces territoires qui ne possédaient pas ces sources d'énergie, ben, aujourd'hui vont pouvoir les avoir et développer un certain nombre d'actions de transformation sur des matières premières ou sur d'autres axes de
et
développement.
Et puis, juste rappeler aussi, là, si on clique sur la France, c'est que lorsque vous payez un kilowattheure 12 ou 14 centimes le kilowattheure, ben, c'est vrai qu'on ne développe pas forcément non plus, puisque ça, c'était l'énergie centralisée donc du nucléaire, donc qui a très bien rempli sa mission au moment donc, où ça a été installé. Mais là aussi, c'est en train de bouger. Mais alors que vous avez un prix du kilowattheure qui est faible, on s'intéresse moins, d'une manière générale, aux énergies renouvelables.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, on partage un réseau commun au niveau de l'Europe et que les politiques énergétiques tarifaires soient sensiblement différentes. C'est comme si on était dans une copropriété et que le coût des logements dans cet ensemble de copropriétés pouvait jongler suivant les orientations de tel ou tel pays. On est effectivement aujourd'hui sur un mix énergétique au niveau de l'Europe et dans le monde qui est fortement dépendant d'abord des infrastructures, hein, ne faisons pas honte au passé, je veux dire, on a un réseau qui est exemplaire au niveau européen, oui. Et ça fait partie de notre patrimoine, et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'apport d'énergie intermittente largement répartie n'est pas tout à fait dans la même nature que lorsqu'on est sur des territoires qui ne sont pas équipés d'infrastructures et pour lesquels l'apport énergétique du photovoltaïque va de soi tout à fait naturellement.
Alors maintenant, André Joffre, donc, alors évidemment, quand on est en Allemagne et qu'on paye le double, le kilowattheure, bon, on s'y intéresse beaucoup plus, et c'est pour ça qu'ils ont aussi une avance entre autres. D'ailleurs, à ce sujet, André Joffre, comment se porte l'industrie allemande en matière solaire?
Alors, l'industrie allemande connaît cette semaine un grave incident avec l'entreprise SolarWorld, qui était une des principales entreprises qui restait encore sur le marché allemand, qui a déposé son bilan. C'est une entreprise qui a perdu 90 millions d'euros à peu près en 2016 pour un chiffre d'affaires de 300 millions. Donc on voit que c'est quand même très important, et en fait elle subit de plein fouet la concurrence chinoise ou des pays asiatiques. Il faut savoir que les Chinois ont énormément investi dans le solaire, ils ont investi à peu près 90 milliards de dollars ces dernières années, ce qui les met effectivement à la tête d'industries extrêmement puissantes et dont les prix de revient sont sans cesse revus à la baisse.
Et ce qui explique que nous on a aussi très peu, on va dire, d'entreprises qui fabriquent des panneaux solaires en France.
Voilà, mais en fait on a en France une industrie qui est plutôt localisée sur le haut de gamme, avec je pense des boîtes comme SunPower à Toulouse par exemple, qui font les meilleurs produits au monde, ou PhotoWatt en région Rhône-Alpes. On a aussi des startups qui travaillent sur des nouvelles cellules, etc., qui sont intéressantes. Et puis on pense bien sûr à nos amis de Cilia qui sont en Bretagne et qui ont aussi une période difficile en ce moment et qui recherchent un repreneur, et on espère qu'ils vont la retrouver bientôt.
Alors je vous propose justement d'entendre une startup, ça c'est très intéressant, avec Ludovic Deblois qui se trouve au Rousset près d'Aix-en-Provence, qui était le cofondateur et président de SunPartner. Et donc, il va nous expliquer ce qu'il fait, Ludovic Deblois, avec son partenaire.
Eh bien, écoutez, notre vision, c'est que n'importe quelle surface qui nous entoure peut devenir productrice d'énergie, et tout ça sans impacter soit l'esthétisme de la surface, soit son design. Et donc, pour ça, SunPartner a développé des vitrages photovoltaïques transparents ou des panneaux solaires esthétiques et colorés.
Alors, ça veut dire que ça va capter donc l'énergie du soleil et après la transformer en électricité ?
Exactement. Donc, ces vitres reçoivent la lumière, la transforment en électricité. Et puis après, ça sert pour différentes applications dans le domaine du transport, du bâtiment et les objets nomades qui nous entourent.
Alors aujourd'hui, à quoi on se heurte encore pour arriver à la fois à démocratiser tout cela et pour que, on va dire, que de nombreuses surfaces soient recouvertes ?
Eh bien écoutez, on est en train aujourd'hui de voir un grand changement de notre société. Par exemple, si on prend le bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment va devenir à énergie positive parce qu'il y a une directive européenne qui pousse dans ce sens, qui a été déclinée dans les différents pays d'Europe. Et pour qu'un bâtiment devienne à énergie positive, eh bien, il va falloir avoir de l'énergie solaire en façade de ces bâtiments. Et là, un panneau solaire traditionnel qui est pas forcément esthétique, eh bien, ne convient pas aux architectes, ne convient pas aux constructeurs, et puis on voit pas à travers. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intérêt des vitres et des façades photovoltaïques colorées a un atout majeur pour ce marché.
Alors Ludovic, est-ce que ce sont des films qui sont posés sur des vitres qui sont déjà préexistantes, ou bien ce sont des vitres spéciales ?
Eh bien, ce sont des vitres spéciales qui sont intégrées dans le double vitrage de la fenêtre et qui viennent directement alimenter le réseau électrique du bâtiment, ou des fonctionnalités que l'on trouve dans la fenêtre qui permettent par exemple d'opacifier la vitre pour réduire la consommation de climatisation quand il y a du soleil, ou pour alimenter des systèmes par exemple de ventilation naturelle pour aérer la pièce lorsque l'air est plus frais le soir ou le matin.
Ça veut dire que vous travaillez en fait sur du neuf, mais est-ce qu'on peut travailler aussi sur de la rénovation ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est formidable aujourd'hui dans les changements qui sont en train de s'opérer, c'est que lorsqu'il y a un bâtiment à énergie positive neuf qui se construit, eh bien, les promoteurs qui sont autour sont obligés également de rénover leur bâtiment, sinon l'ensemble des locataires vont aller dans le bâtiment énergie positive qui est plus efficient et dont le coût d'énergie est plus faible. Et donc, il y a en effet des lancements de grands projets de rénovation. Et là, l'avantage de ce que l'on fait, c'est qu'on va pouvoir venir remplacer une fenêtre, puisque la fenêtre est complètement autonome, elle n'a pas de câblage, et donc on peut en effet rénover. Et c'est pareil pour les façades, où là on va pouvoir arriver avec des panneaux solaires esthétiques qui jouent aussi le rôle d'isolation pour venir à la fois produire de l'énergie, mais aussi réduire la consommation énergétique du bâtiment. Donc on arrive avec des pots intelligentes en fait sur les bâtiments.
Et ça veut donc dire que l'on va mutualiser, mettons, au sein d'un même bâtiment cette électricité, ou bien est-ce que l'on va, on va dire, l'autoconsommer au niveau soit d'une maison ou bien soit d'un appartement?
Et oui, c'est tout à fait l'orientation que cela prend, avec notamment un récent décret là en France sur l'autoconsommation. Et en effet, l'énergie solaire va pouvoir soit alimenter le bâtiment lui-même, soit permettre de redistribuer l'énergie autour du bâtiment.
Alors, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de surface, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on parle très souvent de rendement, mais il faut qu'il y ait quand même pas mal de surface pour que ça fonctionne bien.
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les panneaux solaires en toiture ne suffisent pas pour rendre un bâtiment énergie positive, et qu'il a fallu aller sur les façades, et qu'aujourd'hui, les façades ont beaucoup d'avenir devant elles en termes de production d'énergie. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, pour passer d'un bâtiment qui consomme de l'énergie à un bâtiment énergie positive, eh bien, à peu près la moitié, c'est de la réduction de consommation d'énergie, et l'autre moitié, c'est de la compensation par la production d'énergie. Et là, en effet, il faut produire sur des grandes surfaces, à la fois en toiture et à la fois en façade.
Bon, j'ai envie de changer de fenêtre. Je prends une fenêtre opacifiante. Racontez-moi comment ça marche.
Eh bien, une fenêtre opacifiante, grâce à une télécommande, eh bien, elle va devenir opaque ou transparente. Elle peut le faire soit sur commande ou de manière automatique lorsqu'il y a un rayon de soleil. Et ça permet de réduire la température dans une pièce et donc de réduire la climatisation. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaiterait changer de fenêtre, eh bien, pour avoir le même résultat, il lui faut un store, il lui faut des protections solaires sur sa fenêtre. Eh bien, on est à un coût identique entre une fenêtre avec des stores et des protections solaires et une fenêtre opacifiante autonome en énergie.
En plus, elle va transformer aussi les rayons solaires en énergie ?
Oui, en plus de ça, elle va transformer les rayons solaires en énergie qui permettent justement de rendre autonome cette vitre opacifiante qui sinon devrait être câblée au réseau électrique du bâtiment. Et puis comme il reste un peu d'énergie, en fait, on va la connecter, cette fenêtre. On va la connecter pour pouvoir avoir de nombreux capteurs, des capteurs d'ouverture de la fenêtre, des anti-infractions, des capteurs de température, plein d'informations qui peuvent servir à mieux gérer un bâtiment et aussi à l'utilisateur d'avoir des informations sur l'environnement de la fenêtre.
Ludovic Debois, donc de Sun Partner. Donc levée des fonds, c'est bien. Maintenant, on attend évidemment que les choses sortent en usine. Ça devrait être le cas. Je pensais à une petite chose en écoutant Ludovic Debois, André Joffre, donc avec nous. On a eu une hérésie avec les bâtiments en verre.
C'est complètement dingue.
Des chaudières.
La technologie qui a été d'ailleurs initiée un peu ici à la maison de la radio avec l'immense vitrage en façade. Effectivement, lorsqu'ils sont orientés au sud, ce sont de véritables outils architecturaux. C'est magnifique parce qu'on a une très très belle vue, etc. Mais par contre, on a des apports solaires qui sont beaucoup trop importants. Et donc, effectivement, tous les dispositifs qui permettent d'opacifier un petit peu ces vitrages et de capter une partie de cette énergie pour la transformer en électricité ou en chaleur, d'ailleurs, c'est un bon concept.
Alors, on va revenir sur l'actualité avec l'arrêté sur l'autoconsommation. Mais je reviens vers vous, Christian Schaeffer, donc pour la partie un peu scientifique de l'INES. Alors on connaît donc les panneaux solaires photovoltaïques avec principalement, on va dire, le silicium comme semi-conducteur. Ça c'est une chose, et on va fabriquer donc après de l'électricité. Le solaire thermique, là ça nous permet d'avoir donc de l'eau chaude, qui a été quand même pas mal de temps en difficulté parce qu'il y a eu une concurrence avec les pompes à chaleur qui était peut-être plus facile à faire rentrer dans ce qu'on appelle les coefficients de performance, mais enfin qui est tout à fait largement discutable. Et puis on voit parfois aussi là on est plutôt dans les pays du sud, des grands champs avec des alors qu'est-ce que ça, c'est des systèmes à concentration? Ça peut pas se faire chez nous d'ailleurs, ça, cette affaire là racontez-nous s'il vous plaît, Christian.
Alors effectivement, il y a certains territoires plutôt on va dire sur la rive sud de la Méditerranée qui développent aujourd'hui des systèmes à concentration, hein, qu'on appelle CSP, des systèmes à concentration qui permettent de partir avec une énergie sous forme de vapeur haute température, un fluide caloporteur qui monte en haute température, et qui du coup entraîne une turbine comme l'est une turbine d'alternateur classique dans une centrale nucléaire. Le gros avantage de ces solutions-là, c'est qu'on est capable de stocker cette vapeur haute pression, et donc on est en capacité de stocker directement cette énergie, et donc de distribuer cette énergie à un moment où la production est moindre ou carrément absente. Donc c'est vrai que l'INES a accompagné le grand programme de Ouarzazate conduit par la Mazen au Maroc, typiquement, et beaucoup de territoires aujourd'hui s'intéressent à ces sujets-là, que ce soit l'Australie ou que ce soit les secteurs américains, pour justement avoir des solutions de tampon, ce que l'on a du mal à faire sur le vecteur électrique, puisque le stockage à grande échelle oui. du vecteur électrique est toujours difficile.
Alors, André Joffre.
Oui, alors, plus près de chez nous, dans les Pyrénées, près de Font-Romeu, une entreprise française, la CNIM, est en train de construire une centrale de 8 MW, donc c'est en cours, hein, et donc ça c'est une centrale dite de type Fresnel, et donc sur plusieurs hectares, évidemment, on est en train de déployer ces miroirs, et elle sera visible, je pense, d'ici la fin de l'année.
Alors, je reviens sur le photovoltaïque, les rendements, ça va être entre 8 et on va dire 20% aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques. Bon, on sait qu'il y a aussi le problème du stockage. Donc, qu'est-ce qu'il y a à résoudre? Parce que c'est quand même une énergie intermittente, quoi qu'il arrive.
Sur les panneaux solaires, on sait que le rendement de 20%, il va être multiplié par deux à peu près, je dirais, d'ici deux générations. Hein. Et quant à 30 ans plus tard, peut-être, sauf s'il y a une rupture technologique, on pourra atteindre encore 70-80%. Donc, on sait qu'on a un potentiel devant nous de multiplication par 3 ou par 4. Du rendement à long terme. Bon. Aujourd'hui, malgré tout, avec 20%, c'est déjà considérable. Hein. 20% de l'énergie qui est transformée en électricité, il faut savoir qu'un moteur thermique transforme 30% seulement de l'énergie en énergie mécanique.
Centrale nucléaire aussi, 30%.
Voilà. Donc c'est tout à fait convenable pour l'instant. Mais on va faire des progrès, ils sont programmés, je dirais. Alors, ce qui est important, c'est surtout la baisse des prix. Parce que on a eu dans cette période-là, depuis 10 ans en fait, où on peut considérer que le solaire s'est vraiment développé de façon régulière, on a les prix qui ont baissé, qui ont été divisés par 8 à peu près, ce qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, il ne faut pas considérer le solaire comme un produit industriel, mais plutôt comme un produit du monde de l'électronique en fait. Et en fait, un panneau solaire, ce n'est rien d'autre que des puces électroniques comme celles que nous avons dans nos téléphones. Et donc, nous suivons la fameuse conjecture de Moore en fait. Qui veut que tous les 18 mois, on double la performance à prix égal, eh bien c'est un peu la même chose qui se produit dans le solaire. Les prix ne cessent de diminuer et ils continueront de diminuer. Donc on va avoir en fait d'ici quelques années des panneaux solaires qui ne coûteront presque plus rien. Ou disons le prix de la pose, mais ça deviendra un peu comme un double vitrage, quelque chose de banal. Voilà. Toutes les maisons seront équipées de panneaux solaires, on ne se posera pas la question.
Alors là, on parle du photovoltaïque, mais je reviens un tout petit peu sur le thermique, parce que fabriquer de l'eau chaude, moi je peux vous l'assurer, vous rentabilisez votre affaire en 6 ans. Pourquoi aujourd'hui, contrairement, mettons, à Barcelone, pas contrairement aussi en Espagne ou d'autres pays, ce n'est pas obligatoire d'avoir donc du thermique dès que vous avez un nouveau bâtiment qui se construit?
Mais parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde de l'énergie en France est assez contraint, il est assez structuré, centralisé. Bon. Oui. C'est vrai que c'est d'autant plus performant le solaire thermique.
Exminé, voire centralisé.
Voilà. C'est ça, oui. Vous avez vu que peut-être un nouveau président veut s'attaquer à ce genre de choses.
Oui, bien sûr.
Donc c'est très important que le solaire thermique, parce qu'en fait on réduit les émissions de gaz à effet de serre. On remplace souvent du pétrole, du fuel ou du gaz, quoi. Donc je veux dire, c'est très très important de pouvoir faire ça. On peut vivre au solaire dans la partie sud de la France la moitié de l'année, et on économise à Paris dans des logements sociaux presque la moitié de la consommation d'énergie.
Les bâches, alors ça c'est un truc qui est tout à fait intéressant, Christian Schaeffer, faites-nous rêver un tout petit peu en une minute s'il vous plaît. Donc les bâches de chapiteau, qu'est-ce que l'on peut dire?
Ah ben aujourd'hui on travaille effectivement sur développer des solutions sur des supports souples. Hein. Donc des gros travaux sont menés au sein de l'INES sur la filière organique. Hein. L'idée c'est d'arriver à faire l'impression de panneaux solaires sur un substrat souple à partir d'encre qui ont les semi-conducteurs organiques par nature en leur sein. Et donc on est capable sur des épaisseurs très très fines de pouvoir déposer ces solutions et du coup d'obtenir effectivement intégrés à ces supports souples eh bien des productions solaires qui sont aujourd'hui dans les leaders mondiaux, l'Europe est bien placée, 10 à 15% de rendement sur ces solutions avec des développements industriels qui sont aujourd'hui existants hein, puisque des entreprises existent en France, en Allemagne, en Angleterre et qu'aujourd'hui on est à l'aube d'une évolution très significative de ces supports souples qui accueillent des systèmes photovoltaïques.
Ce qui veut dire que demain, par exemple, lorsque je parlais d'un cirque avec trapéziste, clown, d'accord, mais ça peut être n'importe quel hangar avec une bâche qui pourra produire une bonne partie de son électricité grâce à cela aussi.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. André évoquait tout à l'heure Photowatt, et ben pas très loin de chez Photowatt, il y a des entreprises qui aujourd'hui font des films nanotexturés et qui aujourd'hui travaillent sur l'intégration de ces solutions-là. On a des annonceurs qui travaillent aussi avec des producteurs de ces lignes-là pour intégrer dans les systèmes d'éclairage des panneaux d'information des solutions de ce type. Ces développements sont pas à 10 ou 20 ans, c'est pour 2018 que c'est annoncé. Dans moins d'un an, on aura les premiers annonceurs qui seront présentés sans doute sur Paris, puisque l'annonceur est très présent sur Paris, avec ces solutions-là. Donc il y a effectivement des voies de développement très très significatives sur la filière organique. Alors tout simplement pourquoi ? Ben parce que la solution organique existe, hein, on en a tous entendu
ça,
parler.
Il y a le silicium d'un côté et il y a le panneau photovoltaïque organique, hein, c'est ça.
Voilà. Et donc c'est le complémentaire. Vous savez, en physique, il y a un phénomène qui est très agréable, c'est que la bidirectionnalité marche bien. Lorsque vous êtes face à un écran OLED, vous envoyez de l'électricité et vous avez de la lumière. Et lorsque vous envoyez de la lumière sur un écran OLED, hein, pour faire court, eh bien, vous générez un courant électrique. Et donc, c'est ce qui est travaillé au sein d'INES. Et aujourd'hui, des développements industriels sont d'ores et déjà mis en place avec des partenaires industriels qui ont créé des emplois hein, pour rien de cacher dans le secteur effectivement de la Bretagne. Hein, s'ils n'ont pas les grands champs photovoltaïques, ils ont au moins la société Armor qui est vraiment le leader français du sujet. Oui. Et puis en Allemagne et en Angleterre, des gros travaux qui sont menés avec des partenaires de tout premier rang mondial sur ces thèmes-là.
Et tout ceci, c'est là, c'est maintenant et c'est demain. I'm in it, born and born. Vaudou Game, elle décide.
Tous ces pays qui crèvent de faim, ça va péter de partout. Oh les malheureux! Des millions de gens qui crèvent de faim! Je me suis dit, je ne peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh! Je suis allé au restaurant.
CO2, mon amour?
J'avais un tel cafard que je me suis tapé de tout. Je m'en suis mis jusque-là. J'ai dit au maître d'hôtel, arrêtez, comme on dit vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent.
Sur France Inter.
Et voilà, donc CO2 mon amour, vous l'avez compris, aujourd'hui consacré donc au solaire, 1,8% de la production électrique mondiale aujourd'hui, mais ça galope vraiment à très très grande vitesse. On va pas vous dire que demain votre TGV sera tiré par une éolienne et sera tiré par de l'énergie solaire ni de la biomasse. Non, on est tout à fait clair. Ce qui est intéressant, c'est de suivre ce mouvement qui est donc évidemment une des clés de la décentralisation. Et ben justement, il y a des citoyens qui ont envie de faire des choses. Et je vais me tourner vers vous, Benjamin Blanc. Bonjour à vous. Vous faites partie de l'association de citoyens de Sud Paris Soleil, 60 membres aujourd'hui, vous êtes à Cachan, donc voilà, qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
Bonjour Denis, depuis le moratoire de 2010, les particuliers n'installent plus beaucoup de panneaux chez eux. Dans le contexte général, on va dire de la transition énergétique, et puis d'une idée de réappropriation de l'énergie par les citoyens, et puis de circuits courts, on voudrait transposer ça dans le domaine de l'énergie, et permettre aux gens de continuer à installer des panneaux, en fait. Et puis, pour ancrer, en fait, les questions d'énergie sur des objets concrets. Quand on parle de kilowattheure ou de ça, c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est, alors que là, on va avoir des panneaux, donc on sait ce qu'on produit, on sait toutes les étapes qu'il a fallu faire pour les produire, on va savoir ce qu'on consomme, et du coup, on peut comparer. Et quand on va vouloir faire de la sobriété, ça va donner des valeurs concrètes à ces questions-là.
Alors, vous êtes à Cachan. Il faut dire que le maire, lui, s'est montré intéressé, mais enfin, il reste très attaché à la vision de l'énergie contrôlée par la puissance publique. Et en face, donc, à Arcueil, vous avez une maire adjointe, elle, au développement durable, qui a dit, nous, ça nous intéresse aussi. Donc, c'est intéressant parce que ça fait vraiment bouger les choses entre deux écosystèmes, deux communes, donc, qui se touchent. Et ce que vous souhaitez faire, donc, c'est installer des panneaux photovoltaïques un peu partout sur vos bâtiments privés. Sur du communal.
Le photovoltaïque, c'est assez complexe au niveau de la réglementation.
Oui.
Et donc, en fonction de la superficie qu'on installe, on va avoir des tarifs de rachat différents. Donc, pour notre équilibre économique, parce que comme on va mettre en jeu de l'épargne locale, il faut qu'on puisse dire aux gens qui vont nous prêter de l'argent qu'on va pouvoir leur rendre éventuellement avec un tout petit surplus sur 10 ans, 12 ans, mais au moins qu'il n'y ait pas de perte. Donc, il faut qu'on ait une équation financière qui soit à peu près à zéro. Et pour ça, il faut qu'on équilibre entre des maisons particulières et éventuellement des bâtiments privés ou publics un petit peu plus conséquents.
Et pour que ça fonctionne, dans un premier temps, ce serait donc de la revente et puis après, ce serait peut-être de l'autoconsommation.
C'est ça. Alors en fait, donc, on est en contact avec plein de collectivités locales et de structures locales. Donc il y a le CIPERET qui s'occupe de ça dans la petite couronne. Et eux, ce qu'ils nous suggèrent, c'est de, pour l'instant, de suivre le modèle type, qui est le modèle de revente de l'électricité. Et peut-être que d'ici 5 ans, 7 ans, 10 ans, la partie autoconsommation deviendra plus intéressante. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra éventuellement débrancher les installations de revente et passer en autoconsommation. Mais c'est pas pour tout de suite.
Mais ce qui vous intéresse, donc, c'est véritablement aussi cette initiative citoyenne, parce que vous y croyez et que vous donnez un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Vous voulez un autre modèle de développement électrique.
Oui, tout à fait. C'est un peu dans l'idée des AMAP. Par exemple, c'est de favoriser des circuits courts. On commence à savoir le faire un petit peu plus dans certains domaines. L'alimentation, peut-être un petit peu aussi tout ce qui est ressourcerie, économie circulaire. Mais dans le domaine de l'énergie, pour l'instant, c'est assez balbutiant. Même si il y a des projets comme celui-là, on transpose quelque chose qui existe déjà principalement en région Rhône-Alpes avec les centrales villageoises. Il y a d'autres projets de cet ordre-là en région parisienne aussi. Mais voilà, on aimerait faire un truc local, avoir une ressource d'énergie locale en dehors de la géothermie, qui est un gros truc, mais sur le photovoltaïque.
Et vous en parlez parce qu'effectivement, dans ce département du Val-de-Marne, la géothermie est quand même aussi extrêmement importante. Merci beaucoup Benjamin Blanc, et puis on vous souhaite le meilleur.
Merci à vous.
Et on le voit bien, André Geoffrin, que les gens aujourd'hui souhaitent devenir acteurs de leur énergie, peut-être pas tous, mais enfin en tout cas, ils l'ont été aussi de leur information avec les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire, il s'agit d'agir après, au bon moment, sur leurs appareils, alors, en produisant de l'électricité. Donc deux choses, soit de la revente, ou bien, et là c'est vraiment l'actualité, l'arrêt sur l'autoconsommation qui est sortie la semaine dernière.
Voilà, c'est un arrêté qui fait suite à une ordonnance, etc. Il y a eu pas mal de textes qui ont été publiés d'ici depuis un an là, et qui, dans le droit fil d'ailleurs de la loi sur la transition énergétique. Et en fait, cet arrêté, il permet notamment de délivrer des primes, des subventions pour les personnes qui vont acheter des installations solaires, non pas pour vendre sur le réseau, mais pour consommer eux-mêmes cette électricité. Et cette aide sera de l'ordre de, à peu près, bon, ça va varier selon la puissance, mais en gros, 1200 euros lorsqu'on aura une installation de 3 kilos par
exemple. Faire attention justement de ne pas avoir une installation, l'avait dit avec Frédéric Danhé, qui est trop importante, parce qu'on vous vend parfois des kits, si vous voulez, et vous n'allez pas forcément l'utiliser complètement.
C'est ça. Alors, en fait, il faut savoir que dans l'autoconsommation, on peut faire des choses modulaires. On peut avoir des besoins aujourd'hui qui sont assez limités. Et puis demain, par exemple, parce qu'on aura acheté une voiture électrique, par exemple, on pourra augmenter la puissance, et tout ça en fait va évoluer. On sent bien que l'écosystème en fait de l'automobile, du déplacement, de la mobilité est en train de rejoindre l'écosystème de l'habitat.
Alors le réseau demain, ça c'est tout à fait intéressant. Donc on a ce réseau donc basse tension donc qui est Enedis. C'est très curieux de voir, c'est-à-dire qu'il y a quelques années c'était les seigneurs, c'était le nucléaire et EDF. Là ils sont un petit peu déprimés avec le mur de dette qu'ils vont avoir. Bon, l'électricité, le coût, on peut vous le dire, hein, c'est vrai que ça va monter quoi qu'il arrive. Et puis donc les lignières du réseau. Et maintenant justement c'est ce réseau-là parce que il va falloir mettre de l'intelligence un petit peu partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va être demain pour vous, avec votre vision à vous?
En fait, le réseau, il est effectivement essentiel pour les énergies renouvelables, comme il est essentiel pour l'énergie en général, pour l'électricité en général. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est que le digital est venu un petit peu apporter un supplément d'âme au réseau. Hein. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne faisait jadis. Par exemple, si vous avez une voiture solaire, vous pourrez la recharger bien sûr chez vous, avec votre propre installation, mais que lorsque vous allez vous déplacer, vous allez vous raccorder à 10 km de là sur une borne publique, eh bien, vous pourrez demander à ce que l'électricité de votre maison, votre électricité solaire, soit transportée, soit livrée dans cette borne.
Ah, ça veut dire que ça va être de l'autoconsommation mobile, en quelque
sorte.
C'est
ça, tout à fait. Oui. Et en fait, bon, ça, on n'y est pas tout à fait encore légalement dans les possibilités, mais on sent bien que ce sont des pistes qu'il va pouvoir faire. Techniquement, on sait le faire.
Ce qui va changer, c'est qu'il faut faire coller la consommation à la production.
Exactement.
C'est-à-dire que les fameuses heures creuses, tout ça, ça va basculer.
Enfin, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, avant, on faisait la lessive, par exemple, quand il faisait beau temps, parce que tout simplement il fallait faire sécher le linge, oui. Et bien là on fera la lessive quand il fait soleil, parce que tout simplement l'électricité sera moins chère.
Donc là j'ai vu aussi au salon de l'habitation qu'il y avait des start-up qui étaient déjà là-dessus,
absolument,
et qui vont vous vendre des boîtiers pour pouvoir automatiquement après pouvoir déclencher vos appareils au bon moment.
Tout à fait, on pourra par exemple effacer surtout aux heures de pointe. Par exemple, pour reprendre toujours l'histoire de la mobilité, il y avait au salon de l'auto une société électrique étrangère qui présentait avec une voiture électrique. Et donc, cette voiture électrique, quand vous arrivez chez vous le soir, vous la raccordez sur votre maison, et en fait, la batterie de la voiture devient un élément du système. Mmh. C'est-à-dire que pendant les heures de pointe le soir vers 19h, on se déconnecte, la maison se déconnecte du réseau et puise l'énergie nécessaire dans la batterie de la voiture. Et ensuite, lorsque le courant revient et est bon marché, eh bien, on recharge la voiture.
Alors, j'ai pas encore eu le temps de le dire, mais c'est vrai que vous avez des points info énergie qui sont extrêmement importants. Tout le boulot de l'ADEME, hein, disons-le, hein, donc aussi, qui est dessus depuis de très très nombreuses années. Ils font un sacré boulot également. Christian Schaeffer, quand même, il y a aussi un problème, c'est les surfaces. On va vous dire, bah, c'est très bien lorsqu'on met ça sur nos maisons. On peut être aussi justement sur les merveilleuses grandes surfaces qui vous consommez tout et n'importe quoi. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas bouffer de la terre agricole. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire, Christian Schaeffer?
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le solaire s'est approprié complètement la logique d'autoconsommation pour produire en fonction des usages et des besoins que l'on a. Et effectivement, aujourd'hui, on a une attention toute particulière pour limiter l'impact sur les terres arables d'installations photovoltaïques. En particulier, si vous regardez l'appel d'offres de la Creux 4, la part belle a été faite aux grandes surfaces.
Pour les gens, attendez, la Creux 4, ils savent même pas qu'il y en avait eu 4 avant.
C'est donc la commission de régulation de l'énergie. Donc un appel d'offres qui a été largement utilisé par les grandes surfaces. Il ne faut pas oublier que la France fait partie des leaders mondiaux dans ce domaine d'activité. Hein. Donc, on a effectivement des grands groupes aujourd'hui qui s'approprient complètement cette logique-là à deux titres. Hein. Des espaces sont existants. Il faut installer effectivement des panneaux souples et légers pour ces installations. Et puis, parallèlement à ça, la logique d'autoconsommation est complètement remplie, puisque les besoins énergétiques de ces dites grandes surfaces sont en adéquation totale avec le spectre perte de production d'énergie que l'on a pendant la journée.
André
Joffre, je pense en particulier
à la
congélation.
Dans le monde agricole, il y a vraiment des possibilités très importantes, c'est les serres, les serres agricoles. Vous savez que bon, souvent dans le midi, on peignait les serres en blanc pour éviter qu'il y ait trop de lumière à l'intérieur. Et bien on peut, au lieu de faire ça, mettre
comme on peint les maisons en blanc.
Exactement. Donc on peut mettre des panneaux solaires sur le toit des serres, du moins sur une partie, pour pouvoir réduire l'ensoleillement à l'intérieur des serres. Et ça, en fait, vous voyez, c'est une possibilité de développer l'agriculture, y compris au-delà de la Méditerranée, puisque on cultive de l'agriculture dans les périphéries des oasis, etc. Et donc on pourrait utiliser ce type de serre pour cela.
Et pour revenir aux grandes surfaces avec les ombrières, on va dire entre autres de parking, ça peut être demain aussi un argument commercial.
Oui, absolument, parce que les grandes surfaces, elles ont qu'une envie, c'est de faire venir des clients chez eux.
Ah bon ?
Et donc, ce qu'elles proposeront, bien entendu, c'est de pouvoir recharger votre voiture grâce à l'énergie solaire, et pendant que votre voiture se rechargera, vous irez faire les courses.
Voilà, donc non, mais on est sur un changement de paradigme, hein, entre un réseau, donc qui est, pendant très longtemps, on a eu cette énergie extrêmement centralisée, et là, c'est en train de bouger. Donc,
voilà. Ben, en fait, si vous voulez, la messe, elle est dite, pour tout dire. Hein. On est simplement dans des période d'adaptation, comme le dit le président de la République, il va falloir donner du temps. On peut pas désespérer tout le monde. Jadis, on ne pouvait pas désespérer Billancourt. Aujourd'hui, on ne peut pas désespérer les tenants de l'énergie centralisée, parce que c'est des dizaines de milliers d'emplois.
Bien sûr, oui, c'est normal.
Mais bien entendu,
220 000 personnes dans le nucléaire. Quoi,
évidemment, mais l'évolution des choses, elle est là. Quoi. C'est une question d'accompagnement.
Et la batterie.
Et la batterie qui arrive, évidemment, et qui va. Bon, alors les batteries n'ont pas diminué au même rythme que les panneaux solaires, mais enfin, depuis 10 ans, les batteries ont été divisées par quand même, ce qui est quand même pas mal, hein, le prix des batteries. Donc ça va continuer là aussi, parce qu'il y a énormément de recherches, énormément d'investissements avec des usines de plus en plus importantes. Et phénomène nouveau, ces investissements ne sont pas uniquement en Asie, ils sont aussi aux États-Unis.
Et juste un tout petit mot, je reviens sur les panneaux photovoltaïques, pas nécessaire de les inclure complètement dans les toits, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, d'incendies, etc.
Absolument, aujourd'hui c'est la fin, avec le dernier arrêté, c'est la fin de l'intégration au bâti. Ça a été fait, l'intégration, pour essayer de limiter l'utilisation du solaire, eh bien voilà, ça aussi c'est un signe. Je crois que maintenant le solaire va se développer.
Le législateur était assez responsable de ça, donc à l'époque, faut bien le dire. Merci beaucoup. Alors on peut pas plus tout dire, mais voilà, vous avez plein d'éléments sur le site de CO2 Mon Amour avec Anne Gouzon qui a rempli le site. Merci à vous André Joff, merci Christian Schaeffer, merci à Camille Blanès et à Xavier Pestugia, donc qui a réalisé cette émission, à Muriel Pérez. La semaine prochaine, ça va être la fête de la nature, dites donc. Il faut que ce soit toutes les semaines aussi cette affaire-là. Eh ben, je vais vous emmener en Baie-de-Somme, je suis allé rencontrer des gens que j'ai connus à l'époque, ils avaient 12 et 14 ans, ils en ont 36 et 38, ça ne nous rajeunit pas, les chanteurs d'oiseaux. Ce ne sont pas que des imitateurs d'oiseaux, ce sont en fait des dialogues avec les oiseaux. Donc voilà, pour la fête de la nature, pour le 20 mai, ce sera ça. Le podcast, vous en avez l'habitude, la rediffusion entre 5h et 6h du matin, et puis la tue du bon petit loup, demain à 19h55.
CO2 Mon Amour, avec le WWF. Changer nos modes de consommation et de production. Plus d'infos sur les dons, legs et assurance vie sur www.fr.